La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis Thierry Rouquet, pasteur de l'église protestante baptiste de Toulouse. Aujourd'hui, je vous propose de méditer avec moi un texte qui se trouve dans le Premier Testament de la Bible, dans le livre des psaumes. Ce sera le psaume 128. Chant des montées, heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Tu jouis alors du produit de ton travail. Heureux es-tu. Le bonheur est pour toi. Ta femme est comme une vigne féconde au fond de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint le Seigneur. Le Seigneur te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. En introduction, je voudrais souligner que ce psaume magnifique commence par une affirmation qui peut nous surprendre, tellement elle est le reflet d'une assurance: heureux. Heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Alors, on peut légitimement se poser la question, heureux d'accord, mais qu'est-ce qu'une vie heureuse? Voilà une question fondamentale que beaucoup de personnes se posent, certainement. Qui ne cherche pas à connaître le bonheur? Qui n'a pas envie d'être heureux? Qui ne cherche pas une vie réussie? Luc Ferry a posé cette question, qu'est-ce qu'une vie réussie ou une vie bonne? Et pour lui, la réponse se trouve dans cette victoire que nous devrions avoir sur les peurs. Ces peurs qui nous paralysent et qui finalement nous empêchent de marcher dans cette quête du bonheur. Et il fait le parallèle avec l'Odyssée, où l'on voit le héros principal de ce récit extraordinaire, Ulysse, qui est bien... Et bien souvent, tenté d'arrêter, découragé, on essaye de le détourner de ce chemin qu'il a, ses pérégrinations. Et donc, Luferi nous dit que le bonheur est de ne jamais s'arrêter dans ce chemin, dans cette quête. Mais la question qu'on peut bien sûr lui retourner, c'est comment être sûr que dans cette quête, nous sommes bien sur la bonne route ? Et donc, en réalité, nous revenons à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on entend par une vie bonne ou une vie réussie? Nous parlons précisément de vie heureuse, pas seulement de quelques instants fugitifs de bonheur. Non pas une sensation ou un sentiment passager, mais bien une vie heureuse. Dans un premier temps, on peut penser qu'un désir satisfait peut nous rendre heureux, surtout si ça fait longtemps qu'il était inassouvi. On dit aussi d'une personne qui a une vie heureuse quand elle a pu réaliser son rêve, un projet particulier. Serions-nous pour autant heureux si tous nos désirs étaient comblés, si tous nos rêves se réalisaient? On sait que le cœur de l'homme est insatiable, qu'il ne peut être définitivement satisfait. Il se peut même que si tous nos désirs étaient satisfaits, nous serions encore plus insatisfaits, blasés, écœurés. Pour souligner cette insatisfaction permanente, un philosophe de l'Antiquité, Socrate, a comparé l'âme à une passoire percée. Et quand Socrate allait sur les marchés pour se promener et regarder en souriant toutes ces marchandises qui s'étalaient sur ces marchés, on lui posait alors la question, mais pourquoi fais-tu cela? Et lui de répondre, tout simplement pour admirer tout ce dont je n'ai pas besoin et tout ce dont je peux me dispenser. Schopenhauer a dit que le désir est souffrance et quand il est satisfait, il n'est que le point de départ d'un désir nouveau. La Bible fait écho à cette idée-là dans le livre de l'Ecclésiaste. L'œil n'est pas rassasié de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. On a à l'esprit aussi l'image d'un enfant qui à Noël reçoit son cadeau et qui, l'instant d'après, le laisse tomber pour prendre celui de son frère. Pour résoudre ce problème existentiel, le bouddhisme propose une solution radicale. Puisque le désir ne s'atténue jamais, puisqu'il génère une insatisfaction permanente, cause de toutes nos souffrances, la sagesse serait de se débarrasser de cet appétit insatiable et dévorant. Il faudrait alors éradiquer le principe même du désir par des expériences spirituelles appelées des ascèses, des privations, pour s'entraîner à ne plus rien désirer. On pourrait dire que dans cette perspective, alors, autant dire qu'un mort est plus heureux qu'un vivant. Dans le psaume que nous avons lu au verset 1, il nous est dit « Heureux, heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. » Les définitions d'une vie heureuse dépendent largement des visions du monde, liées à des cultures différentes, à un type d'éducation, à l'époque où nous vivons, et en définitive, à nos attentes, toutes plus contradictoires les unes que les autres. Pour cette raison, nous affirmons que nous ne pouvons comprendre ce qu'est une vie réussie. Nous ne pouvons le comprendre que de Dieu lui-même et de ce qu'il en dit dans sa parole. Comme nous l'avons lu dans ce verset 1, heureux, heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. Nous le croyons, parce que c'est lui qui le dit. Nous le croyons non pas parce que nous pourrions le prouver ou même l'expérimenter, nous le croyons parce qu'il nous le dit tout simplement, heureux. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. Y aurait-il quelque chose de plus pertinent sur la question du bonheur que ce que Dieu en dit? Notre expérience, notre ressenti ont-ils plus de poids et de valeur que ce que Dieu nous dit? Notre environnement, les médias, les films et la publicité ont-ils plus de poids et de valeur que ce que Dieu nous dit? Quand certaines situations du passé nous reviennent en mémoire, ces souvenirs ont-ils plus de poids et de valeur que ce que Dieu nous dit du bonheur? La parole d'un homme aurait-elle plus de poids, de valeur que ce que Dieu nous dit du bonheur? Heureux. Heureux quiconque craint le Seigneur. Heureux es-tu, toi qui suis ses voies, le bonheur est pour toi. Alors, sans minimiser l'apport que toute la culture religieuse, philosophique, l'art, la culture aussi psychologique, sans renier, sans minimiser tout ce que cela a pu et peut apporter à l'humanité, en lisant ce texte, nous comprenons qu'il vaut mieux attacher une valeur unique aux déclarations de la Bible. Nous faisons fausse route si nous essayons de vivre dans ce monde sans chercher à connaître celui qui l'a créé et qui en est le maître. Lui seul peut nous dire ce qu'il en est du bonheur et de la vie heureuse. Dans ce verset 1, le psalmiste nous dit que la vie heureuse est offerte à tous, heureux quiconque. Craint le Seigneur et suit ses voies. Quiconque. Elle est offerte à tous. Ce qui ne veut pas dire que tous, malheureusement, la désirent et la reçoivent. Cela veut dire que Dieu ne fait pas de distinction de race, de culture ou de niveau social. Oui, cette vie heureuse, elle est un bien universel. Cette vie heureuse ne dépend pas d'une vertu particulière que tel ou tel aurait. Elle ne dépend pas, cette vie heureuse, d'une force extraordinaire, d'une qualité caractérisant certaines personnes. Cette vie heureuse, elle est l'apanage de toutes celles et ceux qui désirent connaître le Dieu que nous révèle la Bible, et particulièrement celui qui nous permet de le rencontrer, Jésus-Christ. N'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, « Nul ne vient au Père que par moi. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Oui, Jésus-Christ est bien celui qui nous conduit à ce Père, à ce Dieu bienveillant, qui nous communique cette vie, qui nous donne le repos. Toujours dans ce premier verset, le psalmiste nous dit que cette vie heureuse, elle est promise à ceux qui ont la crainte du Seigneur et qui suivent ses voies. Que signifie cette crainte du Seigneur? Eh bien, le psalmiste nous rappelle que l'être humain est par nature idolâtre et qu'il se fabrique très vite une image de Dieu qui lui corresponde. Aussi, doit-il revenir sans cesse au Dieu révélé dans la Bible, dans une attitude humble et confiante, lui faire confiance, oui. Parce que nous avons la fâcheuse habitude d'adapter Dieu à nos mentalités, nous devons toujours revenir à ce que Dieu dit de lui-même. Parce que l'homme habille Dieu de ses propres attentes, de ses désirs, de ses fantasmes, il est vital de reconnaître Dieu dans les voies qu'il a lui-même tracé pour le suivre. Oui, alors nous pouvons dire heureux, heureux celui qui a la crainte de Dieu et qui suit ses voies. La crainte du Seigneur exprime donc ce besoin de recadrage pour que nous ne vivions pas avec une fausse image de Dieu, une image forgée de toutes pièces par nos propres conceptions humaines, toujours idolâtres. Craindre le Seigneur, c'est le replacer dans nos esprits à la place où il doit être, tel qu'il se définit lui-même dans sa parole, dans les Écritures saintes. La crainte du Seigneur n'a rien à voir, donc avec la peur de Dieu, une peur morbide, une névrose. Non, cette expression souligne tout simplement le respect et l'honneur qu'on lui doit. Ni tyran, ni copain, mais Dieu créateur, et nous, ses créatures. Sa volonté est d'établir avec nous une relation de confiance, d'amour et de vérité. Craindre Dieu, c'est suivre ses voies, c'est l'écouter dans le quotidien de nos vies, écouter sa parole pour être guidé dans un chemin de vie, un chemin de vérité, un chemin d'amour. Finalement, un chemin de sagesse. La crainte du Seigneur, oui, c'est le commencement de la sagesse, comme nous le dit l'auteur de Proverbes 9, verset 10. Et l'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. La crainte du Seigneur dépend donc d'une connaissance de la personne même de Dieu. Elle ne peut être une connaissance détachée de son objet. Par exemple, nous pouvons dire « Oui, je connais telle personne, tel chanteur, tel philosophe, tel homme politique, mais sans avoir eu jamais une discussion ou partagé un repas avec lui. » Dans ce cas, il n'y a dans cette connaissance aucun partage interpersonnel, aucune relation véritable. Or, la connaissance de Dieu du point de vue biblique implique toujours une connaissance de Dieu dans ses rapports avec nous. Et qui, mieux que Jésus-Christ, nous l'a fait connaître? La crainte du Seigneur exprime ainsi une authentique relation entre deux personnes qui apprennent à se connaître dans la vérité de leur être, Au verset 3 et 6, le psalmiste nous dit que la vie heureuse n'a de sens que si elle est partagée avec les autres. En effet, le psalmiste nous dit « Ta femme est comme une vigne féconde, tes fils sont comme des plants d'olivier, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint le Seigneur. » La vigne et les oliviers étaient à cette époque au Moyen-Orient des signes de bénédiction évidents pour tous. D'où cette comparaison qui doit être replacée dans le contexte d'une époque où ces produits de l'agriculture, vignes et oliviers, étaient des signes de richesse et de bénédiction. Idem pour l'image de la fécondité de l'épouse présentée comme signe de la bénédiction. Là aussi, le contexte du Moyen-Orient ancien doit être souligné. Ces images expriment une bénédiction qui se multiplie. C'est l'image de la fécondité qui finit par se répandre bien au-delà de nous au travers des générations successives. Autrement dit, la bénédiction de Dieu qui rend heureux ne peut se garder pour elle-même. On ne peut la confiner en un lieu, en une période de temps, et uniquement dans le cercle restreint de quelques personnes, pour quelques rares personnes privilégiées. Non, on ne doit pas mettre en boîte, on ne peut même mettre en boîte cette bénédiction, on ne peut la mettre en conserve, parce qu'elle est donnée pour être partagée. Ce n'est qu'ainsi que cette bénédiction, ce bonheur peut se multiplier et répondre à sa vocation. Jésus n'a-t-il pas dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » En conclusion, la vie heureuse est celle qui est touchée par la bénédiction divine. Elle-même porteuse d'autres bénédictions insoupçonnées. Ainsi seulement, la vie heureuse peut atteindre par ricochet d'autres personnes. Et comme le dit la fin de ce psaume, « Tu verras les fils de tes fils. » Alors, la vie heureuse déborde et se répand autour de nous, et même au-delà de nous, pour un avenir insoupçonné, pour une vie et un bonheur que nous ne pouvons mesurer. Que la gloire lui en soit toute donnée. Amen.